Okay, are we ready? I'm Naomi Klein, author of The Shock Doctrine. You're listening to CKUT. Keep listening.
Hello and welcome to Viewpoints. Boris Chassaigne here with you for the next half hour. On today's show, nature and literature will be or beat. We'll first take a long walk through the Pickard Quarry, a little pocket of wilderness in the middle of residential Sackville.
I found people in here doing all sorts of different things. Walking through and just having a nice look is one thing. It's traditionally been a hangout for students from the high school and from Mount Allison. I found a woman who lives on the south side in one of the retirement homes who would pick up her mail and come in here and sit beside the quarry and read her mail and then go back. I found another woman who came in here to paint. She would just like the scenery and she would paint. All sorts of things go on here, most of them taking advantage of the things that this place offers.
And we'll have a chat with environmental writer Catherine Fletcher of De Pontiac in Quebec, who has decided to retire from writing her column after 34 years.
By asking questions and being vigilant, I think that it's our human spirit and our ability to make something happen in a better way.
And we'll get to learn more about author Ian Reid, who has made the Governor General Literary Awards shortlist.
I'm really grateful that it was recognized in this way to be included with some other great novels that writers that I admire. And if it brings more people to all of these novels, then I think that's a good thing. It's hard to sometimes get people to see the work, so it's another opportunity for that.
Welcome to Viewpoints.
Follow us on Twitter at CanadaLJI. Listen to all our news online at canada-info.ca.
Welcome to the show. Nice to have you with us. Living beside a rock quarry is not typically considered desirable. And for the 20 or so years of its heaviest operations, the Pickard Quarry, as it's now known, was probably not the best of neighbors. But these days, after many decades of being left alone, the old stone quarry is a renaturalized gem located at the end of the quarry lane between York and Charlotte Streets in Sackville. So, imagine it's a school and work day, and you're taking the day off. Leaves are turning, the sun is warm, sound is quiet, and there you are with Erica Butler, enjoying your stroll through the quarry in the company of Richard Elliott, a neighbor of the Pickard Quarry since the 1990s. We'll wait for you on the other side.
We've always considered it part of our backyard because we live on Sodden Street, just on the other side. Our son walked to Salem School through the quarry every day and back, and learned to like wildlife. He saw an otter in here one time, though that was pretty cool. So I've been here that long with Kate, my wife, and we've also had lots of interaction with other people who use it. So it's not just us. Lots of people think of it as their private backyard.
Elliot has spent days working on cutting and pruning the trails in and around the quarry to keep them accessible for hikers. And now he is heading up an effort to make some slightly more impactful trail improvements with backing from the Tantramar Outdoor Club, Southeast Regional Service Commission, and hopefully Tantramar Council. Elliot is hoping that Council will choose to fund some improvements to make the quarry trail safer and a bit more accessible. He's working with Regional Trails Coordinator for Plan 360, Mark Legere, on how to best do that.
Well, he and I are developing a conceptual plan right now, and we're going to implement that with the town, who's going to fund the work. Mark's going to provide a lot of the expertise, and the manpower will come from Tantramar Outdoor Club, and the expertise also from Chignecto Naturalists, who are our local naturalist club, and they're very interested, and they're going to provide manpower and expertise about how to interpret the wildlife and natural history here. And the Tantramar Heritage Trust, which is our local historical society, is very interested in the idea of interpreting what happened here from a cultural and industrial history point of view. So we'll be putting in explanatory interpretive signs, just a few of them around, showing where the rock was taken out. There are some big blocks of sandstone in there that they'll talk about how they were quarried and how they're taken out. And so it'll be easy enough for someone to just come in here on their own and have a quiet day relaxing, or to learn something about wildlife or cultural history. And so the partnership of those three NGOs and the town and the local commission, I think, is making it all come together to something that really should work and should be really a good asset for the town.
The idea to formalize the quarry land and trails into a park has been floated for decades, but the possibility became more realistic last year when the town of Sackville formally acquired the land from its previous owner, Mount Allison University. Manet purchased the quarry from the Sackville Freestone Company in the 1930s, when the operation had pretty much petered out. Sackville's purchase was strategic. After a water control structure was installed at the outlet of the ponds this summer, they will now serve to store water during heavy rain events when tides won't allow quick drainage of the town's fresh water supply. In the decades that Mount Allison owned it, people in Sackville had explored the quarry, and it was known as a meeting spot for young people. These days, it's not necessarily a romantic hotspot, but there's still plenty of evidence of life.
It looks kind of quiet today. There's not much here in the way of wildlife right now. I saw three mallard ducks on the way over. But I've seen, Kate, my wife and I and others have been making lists of the birds and mammals we've seen in here. I think we're up to 17 species of mammals by their seen or seen tracks of. I saw a beaver here once. We see otter sign almost every time we're in here, all through the winter. Muskrats, rabbits, deer. Peter Manchester once saw a moose coming out of this area, crossing over towards the graveyard. So there's a lot going on in this little pocket, which is actually right in the middle of a residential area in Sackville.
So do you think people will use it as a transportation corridor as well as just going for a nice hike?
I think so. But, I mean, if you've got to walk downtown from here, from my end of town, it's much nicer to go through the quarry than it is to walk down one of the roads. And so we're hoping that that is what happens. So we're hoping that it's used for a whole bunch of things. Like right now, I found people in here doing all sorts of different things. Walking through and just having a nice look is one thing. Coming in and sitting down, having a beer or a smoke is another thing. It's traditionally been a hangout for students from the high school and from Mount Allison. So a lot of things have happened here because it's so close to both of those things and isolated. So it's known as a hangout. But I found a woman who lives on the south side in one of the retirement homes who would pick up her mail and come in here and sit beside the quarry and read her mail and then go back. I found another woman who came in here to paint. She would just like the scenery and she would paint. And there have been students from Mount A coming in, poking around in the water looking for pond life. So all sorts of things go on here, most of them really taking advantage of the things that this place offers. So, yeah, it's already used quite a bit, and I think it'll be used a lot more. And, you know, I've encouraged people who live on that side to go to university through the trails.
Did you say you skated? You skate on this pond?
Yeah.
And you still do that?
Still do.
Yeah? Swimming?
We've swum, but it's not great for swimming, so people don't do a lot of swimming here. But, yeah, quite a few of the local families come down here to skate. When our kids were young, we left hockey nets and plows down here and just came down and opened it up every winter. And we still do that. We bring our shovels down. And there are times when it's nice to skate on Silver Lake or the Waterfowl Park, but this, because it's sheltered from the winds, see, you can hear the wind in the trees right now, but there's no wind down here. It's like, it's just amazing that it just goes across the top. So on a sunny afternoon like this, on a cold day, with wind somewhere else but not here, it's a fantastic place to skate. So we clear rings and we clear trails, and sometimes you don't have to clear anything. If the ice is good, you can just skate everywhere.
That's Richard Elliott walking through and talking about the Pickard Quarry lands, now owned by the town of Tanchamar, accessible from the end of Quarry Lane off Salem Street. At the height of its success in the first decade of the 20th century, the Sackville Freestone Company hauled out 800 tons of stone per day from the quarry. It's easy to forget, as you walk down to the quarry ponds, that the whole area was once filled with earth and red sandstone that was blasted out and hauled away. The area was a farm field when Charles Pickard first noticed outcroppings of valuable sandstone.
The land would have been probably about 20 feet above us now. It would have been at the top up there. You can see the rise. It's not actually a rise. We're just down below that. So that would have been where the top of the land would have come up. It's hard to imagine, but
all
it would have been.
All this was dug out since.
Dug out and.
Since the 1880s.
And exploded.
80s or 90s.
Yeah.
Wow.
So at least 60 feet, which is, what's that, two or three houses in height. Two houses, probably. And yet now it looks natural. Ducks use it. Otters use it. Raccoons use it. All sorts of, this area here is used by raccoons and skunks for denning in the winter. Whenever you come by here in the winter, you get a little poof of skunk. And birds are here all the time. The turkey vultures have started roosting in here in the evening. Great blue herons, Canada geese tried to nest here 1 year. Pintail ducks. I've got a long, long list of birds that I've seen in here. And a lot of our winter birds come in here for the same reasons that we do, because it's sheltered in the winter, and so things like crossbills and Bohemian waxwings and chickadees and cardinals and things are here as well.
It's easy to think while walking the quarry trails that you've discovered something secret or unknown.
Well, that's the interesting thing I find, that a lot of people think this is theirs.
Yeah.
I think it's mine, but a lot of people have the same idea.
As if on cue, while Elliot energetically clips back the invasive multiflora rose that plagues the trails, another voice calls out.
I'm for walking, taking a break from work, and just, I'd like to come here.
Yeah.
See, there's another example. I've just been telling you that people do that here.
It's a Mount Allison physics professor taking a midday break.
Ralph Bruning. I'm a professor in physics. And once in a while, when work gets a little bit too much or I need a little break, I love to come here and walk around. My office is in the Dunn building, so it's quite close, actually. I'm here probably literally 300 meters from my desk. So I really like this place, and it's, I guess, has probably some interesting wildlife and biology going on here. I guess old quarries are known for that.
So, I mean, I guess it's fair to say this contributes to your quality of life?
Yeah, it's a great break close by and a little bit wild, which is nice.
Elliot is hoping that the trails will stay as wild as possible. He's not planning for major interventions, but rather strategically placed benches, rails, and hopefully a bridge overlooking Bulmer Creek as it spills into the quarry ponds.
My job is going to be to control people from trying to do too much. But everybody I've talked to who lives here really wants to have it very low impact. And sort of trails like what we're walking along here, it doesn't have to be changed at all. It's safe to walk on. It's comfortable. It's wide enough. But there are some people in the outdoor club who like to put gravel everywhere and widen things. And so because this is really low impact, natural. Mm-hmm. And that's the consensus of everybody who I've spoken to so far.
I guess the trade-off is there's, you know, a limit of accessibility, but on the other hand, I guess there's what the time investment of maintaining it and also the impact on the natural area.
And part of the problem is that accessibility is challenging anyway, just because of the ups and downs and the rugged terrain. So that trail we just walked on, I mean, people could probably walk out and get to the bridge quite easily without any difficulty. So that's a sort of a medium access kind of place for most people. We're hoping on the other side there's a place where we might put in a boardwalk of some kind and a look-off platform off Pickard Place where people who are really limited in their access could still get to it. So we're trying to make sure that everybody can get into at least a portion of this. But we're not going to try to make all these kinds of trails multi-use or multi-access because it would be a huge task and would sort of work against the idea of having it maintained as a natural place. And a lot of the people who use it now really relish in the thought that it's a quiet, comfortable, wild kind of place that they can get to. And if we can do that safely for everybody, as well as having places that everybody can get to, not just people who are completely fit, then that would be good too.
And good news, Richard Elliott's proposal was accepted by the Sackville Council. His project will get $40,000 in 2024.
Hi, I'm Pamela Hassan in Smithers, BC, and you are listening to Viewpoints.
Pontiac environmentalist and writer Catherine Fletcher recently announced that she will be stepping back from writing columns for several local publications after 34 years in the business. Most recently, her column, Our Environment, was published in the Pontiac Journal, Aylmer Bulletin, and West Quebec Post, covering environmental issues both local and international. She explains that her decision to step away coincided with some other changes in her personal life, and that of her husband, Eric. In Pontiac, Quebec, Caleb Nickerson caught up with Fletcher to talk about her career and projects.
Catherine, how's it going?
Really well, thank you.
Awesome. For those that aren't familiar, could you describe a little bit about what your column is and how it's evolved over the years, I guess you could say?
Sure. Well, the column that I've been writing for the West Quebec Post, Pontiac Journal, and The Elmer Bulletin is called Our Environment. And it really, because to me, the environment pretty well covers absolutely every aspect of our lives, it's a really involving commentary. It's a way of speaking to readers, to people who are living here, about everything from their writing a will and the importance of it and the possible benefit of, you know, donating to an environmental cause, through to what we're going to be doing about voting for an incinerator or the Chalk River near surface disposal facility, through to bird migration. I mean, everything and anything really is the environment.
For sure. As far as like subject specific columns, it's a pretty broad subject for sure.
Yeah. It's been fun to write, too, because, you know, I think that people can often think, oh, what a dreary, depressing topic. And people have said to me, have walked up and said, oh, well, we're so sorry to hear that you're retiring from it, but I guess it's pretty depressing. And I said, well, you know, it's the way of how you turn that crystal. You know, a crystal is my metaphor for life. If you keep on bashing against the brick wall, then just turn the crystal and find a new facet. And I think that that's what we've got to do with the environment, you know, from loving the Blandings turtle and caring about species at risk, through to embracing new mills and clear-cut forestry. I mean, you know, how do we balance? But the important thing, too, Caleb, is always to remember the joy in nature, the restorative powers of nature, and, you know, how we can enjoy ourselves, too. So I just love the topic.
And can you talk a little bit about how you got started there?
Well, really, it's all about writing, isn't it? You would know that as a journalist, and I think journalism is so important, isn't it? It's really about putting your thoughts down and provoking interest. And I did that as a little girl. I always wanted to be a writer. I also wanted to be a nun and a jockey. So
that's a pretty diverse
reason. I know the nun didn't work out at all. I don't know where that came from. Horses, of course, I have horses still. So, but no, the writing, I wrote stories and little tales, and was so inspired by my mom, who loved nature and who read me Beatrix Potter's Tale of Peter Rabbit and stuff. And Beatrix Potter, of course, was one of England's first environmentalists. She donated a lot of land to what's known now as British National Trust. So, you know, from a tiny little girl sitting at my mother's knee listening to these rabbit stories, Tale of Benjamin Bunny, and all of these things, you know, it's grown into a lifelong passion. And I still will write. I'm a visual artist as well, and I really, writing is part of my life. In 1985, I thought that, well, there isn't a book on Gatineau Park, so I wrote one, and of course couldn't find a publisher. I got 30 rejections. So I wrote one and self-published it, and it sold out in 6 weeks. So that really, you know, that book launched my career as a author, but also credibility as a freelance writer.
Jeez, and what was that process like getting into column writing for a newspaper? Just walk in the door and say, here I am, or did they approach you? How did that work?
I walked in the door and said, I think you need a column on the environment. And they, first of all, said, go away. But as some people know about me, I'm rather persistent. So then I was told, well, do you know anything about the Pontiac? You just arrived here. And I sort of explained about Eric and, you know, my husband, Eric Fletcher, and the cabin up the Black River. And anyway, I got the job, and I kind of been doing it ever since, haven't I? And I think we just have to ask questions. You know, when I was growing up in the 60s and 70s, we had this mantra, question authority. And a whole bunch of people have forgotten about that, and a whole bunch of us haven't forgotten about it. And I think we always need to, because by asking questions of the people who are wanting to impose these things or suggest these things, whatever you want to say, by asking questions and being vigilant, we just, I think that it's our human spirit and our ability to make something happen in a better way.
Well, it really broke my heart. We're sorry, Catherine, Caleb, that we had to chop off two-thirds of this fascinating conversation. But you listeners out there can dive into the rest by tuning in to canada-info.ca and listen to Catherine Fletcher talk about her writing career and future projects, one of those being with the Canadian Parks and Wilderness Ottawa Dumoine River Artist for Wilderness Association.
You're listening to Viewpoints with Boris Sasang.
Next, we'll stay close to the Pontiac and go down to Kingston, where local author Ian Reid has made the cut as finalist in the prestigious Governor General Literary Awards. The GG Books Literature Awards recognize the best English and French books in various categories. 70 books across 14 categories made the shortlist this year. Reid's third novel, We Spread, was included in the fiction category for this year's contenders. The story is essentially about the aging process, as the author follows Penny, an artist living on her own in the same apartment she has for decades. But after a fall, Penny finds herself placed in a long-term care facility. Christina Laurie sat down with writer Ian Reid to talk about his book and motivations.
I want to get right into We Spread. We'll get a bit more into the meat of the topic. But for our listeners who haven't had the chance to enjoy it, I was wondering if you would be able to give a brief teaser of how you would describe the novel.
Sure. Yeah. I mean, the novel, sort of an unusual novel, and it's about an elderly artist named Penny, who's been living in the same apartment for her entire adult life. And she's at the stage in life where she's kind of looking back, reflecting on what she's done with her life, her art. She has a fall early on in the story. And after the fall, it's sort of decided that it's best for her to move into a long-term care facility. And she does that. And then I would say the story either evolves or devolves, depending on how you look at it, into more of a surreal territory, and is sort of about her experiences at this facility called Six Cedars.
It's interesting you describe it as unusual. I know it's difficult to put into a box. What kind of genres would you say this book fits into?
Yeah, that's a good question. It's a question that a lot of people have asked since it has been published, including the publisher, when it was getting ready to be released. And I think this has happened with all of my novels. They don't really fit into any particular genre. I think there are probably some elements of, horror literature. There's probably a little bit of science fiction maybe, but it's probably at the end of the day, just a literary novel, a story. Mm-hmm. I like the idea of people being able to interpret it however they want. So if some people read it and see a certain genre, I think that's cool, but it's sort of up to them as opposed to me wanting to put it into a particular place. As a reader, I love going to books and not really going with any expectation. And I kind of like, if people want to come to something like We Spread and not really expect something specific, I think that's probably the best.
Absolutely. I suppose our real lives and stories don't neatly fit into categories either. So I think it's fitting that our novels shouldn't have to either. Yeah.
Yes, that's right. That's right. Exactly. Exactly. And I think, again, just in that vein, if you are a particular genre on it, then you do have, even subconsciously, you have some certain, you have expectations, and that, so again, that can be good. If it does fit neatly into that, then that's kind of good. You're ready for that. But if it's not, then I think it can actually detract from the story. So I think you're right about that.
Mm-hmm, absolutely. Just about the main topic of the story, or one of the main themes you have going on. Of course, getting old and aging is somewhat of a universal experience, or at least something we all consider, whether all of us have the privilege of experiencing it. But I was wondering if you would get a bit into anything in particular in your life that led you to writing an entire book about it.
Yeah. Well, first of all, I agree with you. I think you use the word privileged, and I agree with that. I think that there is a privilege with aging and getting older. And I think our culture typically doesn't view it that way. They think of it as a detriment and something to avoid and be scared of. And the more I thought about it, the more I disagree with that. And in fact, I've actually written two books on it now, because I did write a nonfiction book about my own grandma and kind of her experience getting into her late 90s and spending time with her and reflecting on what being an older person meant for her and how I continue to use her as a model in my own life. And I think I'm interested in that and And so then I wanted to kind of write about it in a fictional context, but still about these ideas. And why is it that we're so scared of getting older and dying? And so I just find it, again, something that for me is personally interesting and something I continue to think about. And it's just sort of endlessly fascinating for me to think about these things.
Yeah, for sure. And you mentioned earlier about, you know, you want people to have different interpretations. And of course, with art, people are going to walk away with their own unique interpretations and thoughts and feelings, et cetera. But is there a particular perspective on this topic that you were aiming to portray or get people thinking about?
Just really that, what you said, the idea of thinking about it maybe a little bit differently, the ideas of aging and what it's like to be an older person, and particularly in the context of art. And I think what you said as well, you know, people will go to a gallery potentially looking at paintings or visual art, and it's sort of, I think, accepted that we will bring different interpretations to a painting. Some people might look at it and maybe not like it, or they'll see something that someone else doesn't see. And I love bringing that same idea to literature and books and novels. And I love reading books that I feel like I get to be part of as a reader, that it's not all given to me, that it's not just an author telling me what to think. And it feels like a intimate conversation then, because it feels like, okay, this is what I'm getting from this story, or this is what it's making me feel or think.
Absolutely. I really like how you described it as a conversation.
I mean, it's the same if you're sitting in a room with someone, or you're at a dinner party or something, and if you're talking with someone, let's say you get sat beside a stranger and you just start having a conversation. There's a difference between having a conversation and, you know, someone expressing themselves, you're telling you, oh, here's what I think about this or this, you know, you just zone out. It's not really, you're not engaged. It's, whereas if someone is asking you questions and it's listening to what you're thinking and feeling and your thoughts, I mean, that's what a conversation is. And I think in a way, a novel can be something similar to that between two people, the person who wrote it and the person who's reading it.
Yeah, that's really interesting. Especially, I know, I imagine as a writer, sometimes it feels like you're just throwing your thoughts into the void, but it's really awesome to think about it as a conversation and that people are interacting with what you've written.
No, exactly. That's why it's so nice to bump into people, or, you know, anytime I get to do any kind of promotional thing where there are people there and they've read it or talked to them after, it's always very nice to, because you're right, when you're writing it solitary and you don't, I never think about people reading it. I'm just thinking about the story. And then to get to that point, when someone gets to interact with it, it does feel in a way like now it's actually, the story is completed. You know, it's not really a story or a novel until someone reads it.
Reed also discussed his reaction to the news of being a GG Books finalist.
How did you receive the news? Was this something you were really anticipating and like waiting for that list to come out, or was it a bit of a surprise for you?
I mean, it was downright shocking, to be honest. I had no expectations. You know, as I said, it's kind of a strange book. It doesn't really fit into any kind of category. And I wasn't even really aware that it was happening, and received the email and just was very surprised. Of course, it's a very pleasant surprise. I'm really grateful that it was recognized in this way to be included with some other great novels that I admire. And if it brings more people to all of these novels, then I think that's a good thing. You know, there's so many good books out there that it's hard to sometimes get people to see the work. So it's another opportunity for that. So I'm happy for that.
The GG Book Awards winners were announced on November 8th, and we're sad to say that Reed's fiction novel, We Spread, did not win. However, Chrysalis by Anuja Varghese from Hamilton, Ontario, did. Congratulations to both authors. And this concludes this episode of Viewpoints. Many thanks to our team, journalists Caleb Nickerson, Christina Lurie, and Erica Butler, to our national coordinators Maureen McEwen and Victoria Fenner. Viewpoints is brought to you by the Community Radio Fund of Canada. I'm Boris Chassagne, your host and producer. Thanks for keeping us company. Remember that you can tune in to all our stories on canada-info.ca and also listen to past shows. Please stay tuned to what follows. Have a great week, and until the next. Ciao.
Canada-info.ca.
ExpoZine 2023, Canada's biggest and best zine fair, is back. Don't miss your one chance to check out new books and zines created by hundreds of independent voices. Whether it's radical zines, comics, poetry, or the small press in both English and French, you'll find it at ExpoZine. Check out expozine.ca for information about programming, about the opening party on December 1st, and to see the list of participants. The ExpoZine Fair takes place on December 2nd and 3rd from 11 a.m. to 6 p.m. Free admission at 1025 Bélanger, right near Jean Talon Metro. Visit expozine.ca for more information. An ArcMTL and CKUT co-presentation.
CKUT, CKUT 90.3 FM.
Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Point de vue. Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, en Alberta, la communauté libanaise craint que le conflit israélo-palestinien embrase tout le Proche-Orient.
Il y a toujours des familles qui te contactent. Je vous en prie, il faut nous sauver. On ne peut pas vivre dans cette place qui a de la guerre. On a des enfants, on a la future, le meilleur futur pour nos enfants. On ne voit pas aucun. Et tout ce qui est mission, c'est vraiment de les aider pour qu'ils puissent sortir de ce milieu, vraiment.
Les immigrants francophones au Manitoba doivent composer avec le handicap de la langue. Le réseau Immigration francophone les attend aux arrivées.
On veut avoir un environnement qui soit favorable à la diversité et qui soit enclin à l'inclusion de ces personnes qui sont issues de l'immigration francophone ici au Manitoba.
Et on prend la mer à bord du Bella des Gagnés pour traverser le fleuve, s'arrêter en Côte-Nord et rejoindre le golfe du Saint-Laurent.
Je viens de la Nouvelle-Écosse, d'un petit village appelé Mavillette. À la baie Sainte-Marie. C'est un village de pêcheurs. J'ai grandi sur l'eau. Mon père a deux bateaux à pêche. Il faisait de la pêche au homard en hiver. Donc de novembre jusqu'à juin, tout l'hiver dans l'Atlantique, je faisais de la pêche au homard. Donc j'ai grandi avec ça. Mon frère est capitaine de bateau à pêche aussi.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien, merci d'être là. Oui, on va prendre la mer, mais notre premier arrêt, on le fait sur la terre ferme, alors que nous prenons la direction de la ville d'Edmonton, où Ahmed Daoud, un ancien chef pâtissier d'origine libanaise, craint, comme beaucoup d'autres, que le conflit israélo-palestinien embrase tout le Proche-Orient. Le ministre israélien de la Défense n'a rien fait pour rassurer qui que ce soit. Lui qui a déclaré le 12 novembre dernier, cité dans les médias français, dont le journal Les Échos, et je cite, que ce que nous faisons à Gaza, nous pouvons aussi le faire à Beyrouth si le Hezbollah franchit une ligne rouge. Ahmed Daoud dit craindre le pire pour sa famille, ses amis et pour le Liban. Les Canado-Libanais ayant de la famille au Liban s'inquiètent face à l'escalade de la violence. Ceci alors que le gouvernement fédéral a d'ailleurs demandé aux Canadiens sur place de quitter le Liban dans les plus brefs délais. Le Liban, il faut le souligner, qui depuis bien des années, et avant toute cette affaire, est plongé au cœur d'une grave crise économique, politique et sociale. Voici Ahmed Daoud au micro d'Eline Koulou à Edmonton.
Vraiment, on vit avec des soucis tout le temps. On dort et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. C'est un cauchemar le lendemain. Qu'est-ce que ça va arriver le lendemain? C'est malheureux que ça se passe vraiment. C'est malheureux, très malheureux. Il y a trop des innocents vraiment qui sont en train de mourir pour rien. Ils n'ont rien à faire dans cette guerre vraiment. La seule faute qu'ils ont, c'est parce qu'ils vivent vraiment dans cette région du monde. Je vous dis la réalité, depuis que je suis né, je vis dans cette, si vous voulez, un espace de guerre et puis de conflit. Et puis, aujourd'hui, je suis à l'automne de ma vie. C'est toujours le même problème. Il faut trouver une solution comme la solution. On ne sait pas. Ça va, il faut que ça arrive de quelque part. Et depuis que je suis venu dans ce pays jusqu'à maintenant, je me rappelle, le Canada était toujours, c'est une mission de paix dans le monde entier. Je me rappelle très bien quand je suis venu ici dans ce pays où il y a des guerres, c'était dans le monde, pour que le monde puisse être protégé d'autres nations en tant que touriste et même le drapeau canadien. Parce que ils savent qu'ils sont les gens de paix, les gens toujours qui cherchent vraiment une solution pour la paix. Et puis, ils sont dans le milieu. Ils ne prennent pas ni à gauche ni à droite. Seulement, ils invitent tout le monde tu sais, à une solution de paix. Et puis, ça a toujours été le Canada comme ça. J'espère que vraiment, le Canada qui continue à cette façon.
Ahmed Daoud partage des expériences de ses proches qui se trouvent au Liban en ce moment et des situations pénibles qu'ils sont en train de vivre.
Hier, il y avait un ami à moi. Sa famille il traverse d'un village à l'autre village qui était frappé par un missile de l'autre côté de la frontière libanaise. Oui. Et puis, la grand-mère, la mère et les 7 enfants qui sont morts. Quelle faute que l'on a ces enfants pour qu'ils payent vraiment cette coûte de vie. Malheureux. Il y a toujours des familles qui te contactent. Je vous en prie, il faut nous sauver. On ne va pas vivre dans cette place qui a de la guerre. On a des enfants. On a la future, le meilleur futur pour nos enfants. On ne va pas aucun. Et tout ce qui est une chance, c'est vraiment de les aider pour qu'ils puissent sortir de ce milieu, vraiment.
Ahmed Aoud adresse un message de paix pour les deux nations et souhaite surtout voir ces conflits terminer un jour pour l'épanouissement des deux nations.
La majorité du monde est toujours ce qu'il invite vraiment tous les côtés pour une solution de paix. C'est entre les deux. C'est une solution de deux pays qui peut vivre tout le monde. C'est en paix ensemble. Si moi, tu es mon voisin, si je vais vivre un accord avec toi, il faut que je te parle à toi avant que je parle à ton voisin. Et c'est ça que ça va. Il faut que ça arrive vraiment. Un paix pour le monde entier.
Eline Koulou, journaliste pour IGL.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Parenthèse maintenant, juste le temps d'un erratum bien senti. Je vous ai dit la semaine dernière que Marine Otogali s'était intéressée à l'organisme Ubuntu, une association qui s'est donnée pour mission d'accompagner les nouveaux arrivants d'Afrique subsaharienne au pays. Eh bien, erreur totale sur la personne et la région, car il s'agissait bien de Sébastien Caron à Fredericton au Nouveau-Brunswick et pas du tout de Marine Otogali à Toronto en Ontario. Mille excuses à tout le monde, même si Ubuntu a des antennes dans plusieurs villes canadiennes, dont à Toronto. Ubuntu, qui a d'ailleurs présenté son plus récent gala à Toronto avec des personnalités issues de toutes les communautés, d'où ma confusion. D'autant que Marine allait notamment couvrir le dit gala, mais c'est ravisé.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Amende honorable faite, prenons maintenant la direction de Winnipeg où s'est conclue il y a quelques jours, comme ailleurs au pays, la Semaine nationale de l'immigration francophone. On vous en parlait d'ailleurs la semaine dernière. On sait bien qu'être un immigrant francophone en situation minoritaire au Canada comporte son lot de défis. Les nouveaux Canadiens et résidents permanents qui se posent au Manitoba s'y façonnent pas à pas un nouvel avenir, mais ils savent, à l'inverse de ceux qui émigrent au Québec, qu'ils vont devoir se débrouiller dans la langue de Shakespeare. Et au réseau de l'immigration francophone du Manitoba, on en est bien conscient. Saloua Medri, gestionnaire au réseau de l'immigration francophone, travaille avec son équipe et les organismes qui en font partie à faciliter l'intégration des francophones venus du monde entier pour s'installer au Manitoba. Madame Medri est ici au micro d'Iman El Hadji.
Je dirais que l'essence du travail du réseau d'immigration francophone de par l'ensemble des membres et des organismes qui en font partie, c'est de travailler pour créer un environnement accueillant. Qui dit environnement accueillant dit aussi une communauté accueillante. Parce que les personnes, quand elles viennent s'établir au Manitoba, c'est dans des collectivités là qu'elles le font. Et donc, de ce fait, on veut avoir un environnement qui soit favorable à la diversité et qui soit enclin à l'inclusion de ces personnes qui sont issues d'une immigration francophone ici au Manitoba. Donc nous, concrètement, comment on le fait, c'est en travaillant avec les communautés d'accueil, avec les organismes et institutions pour les sensibiliser à la diversité, pour les sensibiliser aux divers besoins des immigrants d'expression française et aussi avec les communautés d'accueil sur la diversité, puis l'importance et la richesse, bien, la contribution de ces personnes qui sont issues de l'immigration au Manitoba. Et en créant aussi des occasions de rapprochement entre les communautés d'accueil, les organismes et les nouveaux arrivants pour favoriser justement cet échange, ce dialogue et cette cohabitation pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles et éviter un peu les frictions et les malentendus qu'il peut y avoir.
Comment le RIF aborde-t-il les défis liés aux compétences en anglais
et à la reconnaissance des qualifications.
Alors, la raison d'être essentiellement de la Semaine nationale de l'immigration francophone, c'est essentiellement de parler, de mettre en exergue, je dirais, la valeur ajoutée des immigrants francophones et les contributions diverses qu'ils apportent aux communautés dans lesquelles ces derniers et ces dernières s'établissent. En d'autres termes, mettre en avant vraiment les personnes qui sont issues de l'immigration et montrer un peu de quelle façon est-ce qu'elles contribuent, donner des exemples et aussi apporter des témoignages justement en allant dans le sens de la thématique de cette année pour justement leur donner la possibilité d'exprimer le pourquoi le Manitoba a été pour elles et eux une terre d'accueil. Donc ça, c'est vraiment l'essence et la raison d'être là de la semaine. Concernant les enjeux, c'est un élément qui est par rapport à la compétence linguistique et notamment la maîtrise de l'anglais de ces personnes-là. Il y a vraiment différentes façons dont on s'y prend, à savoir lors des événements-là de promotion à l'international, on met de l'avant vraiment l'importance de l'anglais, c'est-à-dire on met en avant et on informe de manière claire les candidats même à l'immigration, ça veut dire toutes les personnes qui ne sont même pas encore ici, qui sont encore dans les réflexions et au début du processus éventuellement d'immigration, on leur dit que c'est vrai que le Manitoba, eh bien le Canada est un pays qui a le français et l'anglais comme langue officielle, mais le Manitoba est majoritairement anglophone. Ça veut dire qu'il faut maîtriser l'anglais au moins avoir un niveau intermédiaire d'anglais pour pouvoir être fonctionnel et pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir intégrer le marché du travail. Cela étant dit, comme réseau en immigration francophone et comme organisme et institution francophone ici au Manitoba, il y a cette possibilité de vivre en français. Donc là, ce sont les éléments que nous essayons d'apporter et les nuances que nous faisons quand nous abordons là cette thématique-là de l'importance des deux langues officielles au Canada et de quelle façon ça peut impacter la vie de la personne quand elle vient s'établir ici si elle n'a pas le niveau adéquat en anglais. Cela étant que si c'est le cas, quand les personnes elles viennent pour différentes raisons et qu'elles n'ont pas le niveau d'anglais requis, il y a toutes sortes de possibilités. Donc, notamment, le ministère Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada donne et puis subventionne des programmes de langue, notamment de mise à niveau d'anglais, pour permettre aux personnes de mettre à niveau leurs compétences linguistiques. Donc, autrement dit, il y a des programmes des cours de langue qui sont disponibles pour les immigrants d'expression française pour qu'ils améliorent leur niveau ici une fois arrivés au Canada. Il y a aussi des occasions non formelles d'échanges linguistiques, de clubs d'anglais, etc., qui sont des espaces qui sont créés par différents organismes pour justement permettre aux personnes immigrantes de pratiquer l'anglais, même d'ailleurs au niveau du pré-départ. L'accueil francophone offre des cours, des clubs d'anglais pour justement permettre aux personnes qui sont encore à leur pays d'origine et qui se préparent à leur arrivée de commencer à pratiquer l'anglais et puis d'essayer d'éliminer un peu les barrières et la gêne que ces personnes elles peuvent avoir.
Nous vous remercions énormément du temps précieux que vous nous avez accordé aujourd'hui, Salwa.
Ça me fait plaisir, Iman.
Marie Hillès à Ottawa, en Ontario, vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et pour conclure cette émission, on prend le temps et on prend la mer. Elle n'est pas bleue, turquoise, chaude et transparente, mais froide, gigantesque et impressionnante. C'est la mer de l'estuaire du golfe du Saint-Laurent, elle est salée, où se tient fièrement notre journaliste Raphaël Hensley-Vincent, qui travaille à tête à la baleine, elle qui, pour nous, a affronté vents et marées et hissé son drapeau sur le Bella des Gagnés, qui faisait la traversée de tête à la baleine jusqu'à l'île d'Anticosti, une traversée de 2 jours qui lui a permis d'aller à la rencontre du capitaine de ce navire qui ravitaille la basse côte nord. Le capitaine Corey Deveau qu'elle a rencontré sur ce navire de 6600 tonnes au lendemain d'une nuit mouvementée en mer alors que les passagers et l'équipage étaient en route vers l'île d'Anticosti, le Bella des Gagnés qui relie d'avril à janvier Rimouski sur la côte est du fleuve Saint-Laurent au village de la basse côte nord non desservis par la route. Ceci, évidemment, pour assurer le transport de passagers et de marchandises. Les forts vents de la nuit qui a précédé cette rencontre ont gardé le capitaine du navire éveillé une bonne partie de la nuit. Le capitaine qui a dû éviter, d'ailleurs, le port de Natashquan en raison des mauvaises conditions météo. Le navire qui a ensuite mis le cap sur Port Meunier à Anticosti. Rencontre donc avec Corey Deveau qui navigue depuis 14 ans. Il s'est fait la main sur le Nordic Express, le prédécesseur du Bella des Gagnés, dont il tient aujourd'hui les commandes. Le capitaine Deveau parle avec Raphaël Hensley-Vincent.
Je suis avec Corey Deveau, qui est le capitaine en ce moment sur le Bella des Gagnés.
C'est ça.
Vous avez accepté de me rencontrer pour une courte entrevue après une nuit quand même assez agitée.
Oui, cette nuit, c'était une nuit venteuse un peu. J'avais impacté quelques cas en route vers Saint-Pierre. J'avais sauté de Natashquan. Au fait qu'il vente à 50 nœuds dans le secteur. Il vente toujours environ 35-40 nœuds ouest-nord-ouest à ce moment-ci, quand nous parlons. Donc, je suis présentement en route pour Anticosti.
J'avais envie de vous entendre un peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à être capitaine du bateau? Depuis quand vous êtes à bord du navire, le Bella des Gagnés?
Je viens de la Nouvelle-Écosse, d'un petit village appelé Mavillette. À la baie Sainte-Marie. C'est un petit village de pêcheurs. J'ai grandi sur l'eau. Mon père a 2 bateaux à pêche. Il faisait la pêche au mort en hiver, donc de novembre jusqu'à juin, tout l'hiver dans l'Atlantique. Je faisais la pêche au mort. Donc j'ai grandi avec ça. Mon frère est capitaine de bateau à pêche aussi. Tous mes oncles avaient des bateaux à pêche. Donc, j'ai commencé comme matelot, comme tout le monde d'autre, de la vieille façon, pas de la nouvelle façon. J'ai pas vraiment été à l'école, j'ai commencé comme matelot. Puis, j'ai monté les échelons de matelot à capitaine pendant 10 ans, 10-15 ans que ça m'a pris. Puis, challenger tous mes examens à travers le Transport Can pour devenir capitaine.
Ça fait longtemps que vous naviguez les eaux du Golfe, puis vous connaissez bien la basse-côte que vous me disiez.
Oui, donc ça va faire 14 ans que je suis à la basse côte. J'ai commencé comme troisième officier sur le Nordic, comme que je disais, sur le Nordic Express. Puis j'ai monté les échelons à premier officier pendant 5 ans, je pense, environ. Et puis après ça, j'ai tombé capitaine sur le Bella, qui fait, ça fait 7 ans que je suis capitaine sur le Bella. Oui, la basse côte, c'est comme mon deuxième chez moi parce que je passe plus de temps ici qu'à la maison. Dans les 14 ans que j'ai passé sur la basse côte, j'ai fait beaucoup de connaissances avec les gens locaux. Je considère ça mon deuxième chez moi.
Tantôt, on a visité la timonerie puis j'ai vu qu'on travaille beaucoup en équipe.
Oui, donc j'ai toujours une équipe avec moi. En fin de compte, j'ai toujours un officier puis un timonier. Encore 24 sur 7 dans la timonerie. Donc, que ce soit en manœuvre, en mer, en route, à quai, 24 sur 7, il y a toujours une équipe dans la timonerie pour faire la navigation. Puis pour tous les approches, tous les départs, si tu as des urgences, la météo défavorable, de la glace, des escortes de glace avec les brises glaces l'hiver, Moi, je vais me joindre à cette équipe-là. Moi, personnellement, j'ai pas de corps, donc les officiers de navigation et les matelots et les timoniers avaient des corps. Donc, c'est 4 heures en watch, 8 heures off, donc 2 corps de 4 heures. Moi, personnellement, ils m'appelons à tous les ports, donc tous les arrivées, tous les départs, c'est moi qui les fais. Puis à part de ça, là aussi, la gestion du navire, donc tout ce qui est gestion, ressources humaines, ainsi de suite, qui peut amener un navire avec environ 48 membres d'équipage, mais cette gestion-là, je la fais avec mes chefs d'équipe aussi.
Vous êtes 4 semaines sur le navire, puis 4 semaines ensuite off, si j'ai bien compris.
Ouais, ça dépend du temps de l'année, mais à ce moment ici, oui, c'est 4 semaines sur le navire, 4 semaines à la maison. Donc, moi, quand je suis en vacances, c'est mon collègue Mathieu qui me remplace. Dans les plus durs temps de l'année, j'arrive pas mal là dans l'automne, mais je faisais des 3 et 3 juste pour essayer de couper le récupérer puis couper cette pause un peu plus.
Et c'est quoi le plus grand défi dans votre métier selon vous?
Tous les bateaux ont des différents défis, mais sur la basse côte, il y a toujours un défi. Puis ça fait 14 ans que je suis ici puis que je reste ici. Là. C'est que tous les semaines, c'est jamais la même chose. Là, les vents qui sont un défi qu'avec les années, spécialement les 3 dernières années, les tempêtes sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus épiques, donc beaucoup plus, ils ventent beaucoup plus fort, puis ils sont beaucoup plus longues. Donc avant, même pas si longtemps que ça, là, t'avais une tempête de 50 nœuds, 60 nœuds, une fois tous les 2-3 semaines, peut-être, puis ça dure à une douzaine d'heures. Maintenant, 50 nœuds, c'est venu, on voit ça quasiment toutes les semaines. Puis ça dure longtemps. Par exemple, hier soir, ça a pogné 50 nœuds vers, je pense qu'il était à 6 heures. Puis à ce moment qu'on se parle, il est midi le lendemain, puis il vente encore. Donc, ça fait ma job un peu plus compliqué à maintenir l'horaire, donner le service à les gens de la basse côte tout en temps que passer à travers de ces tempêtes-là. Là. Puis essayer de maintenir cet horaire-là à toutes les semaines et livrer le stock et la marchandise.
Puis à ce propos-là, je sais que les gens en basse-côte puis en tête à la baleine se demandent souvent pourquoi on a sauté un port, pourquoi ils viennent pas. Puis je me demandais, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du processus décisionnel quand vous prenez ce genre de décision-là?
Pour moi, c'est la météo. Donc le bateau et c'est la sécurité en premier. Je voulais pas que personne se fasse mal. Donc la sécurité des gens, des passagers, l'équipage et du bateau en premier. Donc quand c'est la tempête, l'annonce d'une tempête, je m'assieds et je prends une décision de ce qu'on peut poursuivre, aller voir au port. Une fois rendu sur place, ben, dépendamment des conditions météo, là je prendrai ma décision, c'est que c'est sécuritaire à accoster ou pas. Puis là, après ça, ben on décide avec le bureau, là, on décide c'est quoi ce que notre. Si je dois attendre, c'est quoi les conséquences d'attendre, c'est quoi les impacts sur le reste du voyage. Si tu attends 10 heures, si tu attends 12 heures, si tu attends 24 heures, si tu attends 2 heures. C'est sûr qu'attendre 2 heures, ça va. Ça a beaucoup moins d'impact que si tu attends 24 heures. J'aurais été un avantage à ne pas arrêter. Peut-être qu'on n'a pas d'avantage, peut-être qu'il va faire tempête partout, puis qu'il faut attendre là, puis c'est tout. Donc, mais c'est vraiment la sécurité en premier. Aujourd'hui, c'est un bon exemple. Nous sommes présentement en route pour Anticosti. Ils vendent 40 nœuds. Mais j'allais les voir quand même, faire notre possible pour évaluer la situation sur place. Une fois rendu sur place, ben, là, la décision va être prise si je peux rentrer ou pas.
Est-ce que vous pouvez me parler de qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Est-ce que vous êtes encore, est-ce que vous trouvez encore ça beau, voir la mer ou?
Oui. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça l'autre jour, honnêtement, c'est quand la dernière fois que tu as regardé au lever du soleil? Puis, c'est une bonne question, je m'en souviens pas. Oui, moi c'est le challenge que j'aime. Moi, j'aime le travail dans la glace. Donc, tout le monde a leur spécialité. Moi, j'ai décidé de spécialiser dans naviguer dans la glace. Puis j'aime ça, travailler dans la glace, avec des brise-glaces, ainsi de suite. Casser de la glace, quand ça arrive au camp, manœuvrer dans la glace. Donc, je trouve cette partie-là le fun. J'aime ça aussi, le bel en particulier, parce que t'as l'aspect, genre des passagers, genre du cargo, genre un peu de tout. C'est quand même un bateau qui est très occupé, comparé à d'autres bateaux peut-être, que tu vas faire un port tous les deux semaines, tous les deux, trois ports par semaine. Tant qu'ici, je fais 22 manœuvres par semaine. Donc, je fais l'équivalent d'un capitaine normal. Moi, je fais probablement aussi tant de manœuvres dans une semaine que je faisons dans un mois ou deux. Donc, c'est toujours ce challenge-là qui me tient intéressé à faire la basse côte et naviguer, là, en fin de compte.
Merci. Ben, j'avais une dernière question. On s'en va dans la basse saison en ce moment. L'automne est pas mal avancé. Puis je me demandais, c'est quoi les défis de la navigation, c'est ça, dans la glace?
Pour moi, en fait, peu importe le temps de l'année, c'est pas vraiment une basse saison pour moi, là, ce temps-ci, là, parce que le volume de cargo augmente un peu ce temps-ci de l'année, dû au fait que l'hiver s'en vient, donc les gens de la basse côte commandent un peu plus. C'est Noël qui approche aussi, là, donc là, un peu de ça. Donc, pour moi, là, pas vraiment de haute ou de basse saison. C'est sûr que les conditions viennent plus difficiles avec l'automne qui est là déjà.
Raphaël Hensley-Vincent, qui a, au bout de deux jours en mer, pu regagner la terre ferme en posant ses pieds sur la magnifique île d'Anticosti, réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. Cet autre reportage sur canada-info.ca. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Nos journalistes, Eileen Koulou à Edmonton, Raphaël Hensley-Vincent en mer à tête à la baleine, Iman Elagi à Winnipeg, coordonnateur national Stéphane Bénard à Moncton. Point de vue vous est présenté chaque semaine par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à Montréal, à l'animation et à la réalisation. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci de nous tenir compagnie. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine. Ciao.
canada-info.ca.
Tony from Planet Giza, and you're listening to CKUT Montreal Community Radio. This the crib right here, so shout-outs to every station on here, and shout-outs to you, the listener. Don't go nowhere. We'll be right back.